et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots. Les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère. D'une part, en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup, mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma. Le tout infusé par une approche globale, mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle, pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je comprends, pour certains c'est pas facile, mais en fait c'est comment réussir à se donner les moyens de dire quand on veut on peut. Il y a des moments où c'est difficile par son statut social, son état physique, et à un moment donné où on est contraint de plein de choses, mais dans cette situation, comment on peut s'en sortir seul? Et c'est ça qui est très intéressant, c'est comment seul on peut réussir à s'en sortir, et par des petites victoires au fur et à mesure, comment on peut se détacher des choses pour aller chercher cette liberté, aller chercher ce qui nous fait du bien, et d'aller chercher ce bien-être qu'on cherche. Ouais. En fait.
Encore faut-il savoir, et ça c'est pas encore donné à tout le monde de savoir qu'est-ce qui leur fait du bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas forcément, ou qui n'ont pas à se poser la question de qu'est-ce qui m'anime vraiment, tu vois. Et je pense que c'est aussi ce par quoi t'es passé qui t'a obligé aussi à te poser les questions de je suis vachement limitée, qu'est-ce qui m'anime vraiment pour que je puisse retrouver de la joie aussi que je puisse trouver de la joie dans ce que je fais. Et c'est pas évident, parce qu'on est dans une société aussi où tout va vite, où on est poussé à aller dans un certain chemin qui est vendu par la société, et qui n'est pas en fait forcément adapté à tous. Donc franchement, ce n'est pas évident de faire ce travail-là sur soi quand on n'a pas la, entre guillemets, chance d'avoir des obstacles, quoi.
En final, tu te poses ces questions-là. Quand tout va bien, tu ne te les poses pas, ces questions-là. Mm. Par contre, quand tu es dans le mal, quand tu es dans les moments très très durs, c'est là où tu commences à te les poser de ces questions parce que bah, tu aspires à une vie meilleure, tu aspires à quelque chose de plus soulageant pour toi, pour ton corps, pour ta tête. Et donc, tu te recentres à ce moment-là et je pense que c'est là-dedans qu'on...
Ouais. Mais aujourd'hui, sur le plan purement physique, du coup, tu fais 35 heures de sport par semaine, ça me paraît gigantesque. Ça me paraît juste énorme. Mais donc, tu as 39 ans. Moi, j'ai toujours entendu dire qu'à partir de 35 ans, les athlètes prennent leur retraite. Mais du coup, tu envisages comment, toi, ça ? Enfin, vu qu'on disait juste avant, c'est pas une question d'âge, etc. Et j'en suis convaincue. Mais tu le vis comment, ce...
Alors, c'est pas une question d'âge, mais on récupère quand même plus. On n'a pas le même corps quand même à 20 ans qu'à 40. Ça, c'est certain. On n'a pas la même tête non plus. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, mon corps, c'est mon outil de travail, donc il faut que j'en prenne le plus grand soin. Et que plus ça va, et moins, en quelque sorte, plus j'ai besoin de temps de repos. Donc c'est juste ça, en fait. C'est juste cet équilibre-là. Maintenant, en fait, il y a 35 ans, c'est vraiment pour la retraite pour des sportifs valides.
Ah oui.
Après, il y en a des grosses légendes qui poussent un peu plus loin. Alors, on reparle de basket, mais là, tu as LeBron James qui a plus de 40 ans, qui est encore là. Bon, bref, il n'y en a pas des masses non plus, mais voilà, c'est les grosses légendes. Roger qui a fini sa carrière, je ne sais pas quel âge il avait, Roger, mais quand il a arrêté sa carrière à 2 ans, il n'était pas très loin non plus, il était plus loin de 35 ans, en tout cas. Et où moi j'en suis, c'est juste que en fait tant que la tête, tant que la tête, le corps et les performances vont bien, et ben je vais continuer. Ouais. La différence qu'il y a en para, c'est que déjà l'âge moyen des médaillés aux Jeux paralympiques, l'âge moyen c'est 38 ans.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc je suis en plein dedans, mais pourquoi ça ? C'est parce que à 80% un handicap arrive au cours de la vie. Donc, ce n'est pas de naissance. Et donc, tu as un temps de réadaptation. Tu ne vas pas te remettre à faire du sport tout de suite. Tu as une adaptation à faire. Et donc, du coup, tu as des athlètes qui ont 50 ans et qui vont aller chercher des médailles. Parce qu'il n'y a aussi pas non plus la même concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même 15% de la population mondiale à être en situation de handicap. Donc, du coup, tu vas aller chercher des champions dans ces 15%. Donc, la densité n'est pas non plus la même. Si demain, et encore, dans les 15%, le taux de personnes qui fait du sport par rapport aux personnes valides, elle est, je pense, encore moins forte que les valides. Et là-dedans, après, il y a sport, y a activité physique adaptée, sport... Et après, au niveau. Donc, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le top 10 mondial, et pour faire du haut niveau dans mon sport, si je veux rentrer dans le top 10, oui, je vais devoir m'entraîner autant qu'un athlète valide. Par contre, si je veux juste m'entraîner 2-3 fois ou quoi que ce soit, je peux être dans le top 25 facile. Chose que pour un valide ne pourra jamais faire. C'est impossible. D'être dans le top 50 mondial, il faut travailler autant, c'est-à-dire que celui qui est premier. Ouais. Même dans le top 100, même dans le top 200. C'est ça qui est fou. C'est que nous, on est propulsé très vite dans une sphère de haut niveau. Par contre, après, si tu veux performer et d'être dans les meilleurs, tu dois faire la même chose.
Ouais.
Mais tu pourrais... rester là-dedans aujourd'hui, je pourrais toujours faire des compétitions internationales jusqu'à 70 ans.
Ouais,
je n'ai pas de performance, mais je serais toujours là, ou en tout cas à l'heure actuelle. Peut-être que ça va évoluer et l'objectif il est là aussi, mais c'est ça la différence qu'il y a pour moi entre un sportif valide où il y a une densité tellement forte.
Ah bah oui, forcément, il y a beaucoup de personnes valides.
De toute façon, à un moment donné, vu que la densité elle est tellement forte, tu n'es plus en capacité à tenir cette concurrence à l'âge de 35 ans. Bien et donc, du coup, tu prends ta retraite. Et aussi parce que eux ont commencé très jeunes.
Ah oui.
La
oui,
plupart ont commencé à 5 ans. Et donc, du coup, 5 ans, 35 ans, ils ont passé 30 ans à faire ça.
Ouais, c'est chaud. Et le corps fait chaud. Hein.
C'est ouais. fou, en fait, de faire ça. D'avoir pensé de ça et d'avoir fait autant de sacrifices pendant autant d'années. Moi, c'est, au final, ça fait combien de temps? Ça fait seulement 9 ans.
Ouais.
Donc, c'est ça aussi. Il faut remettre l'échelle par rapport à tout ça. Et moi, j'ai commencé à 30 ans. J'aurais commencé plus tôt. Peut-être que j'aurais fait une carrière plus longue. C'est certain. Ou ça veut peut-être dire aussi que mentalement, au bout de 15 ans, tu dis, attends, j'ai peut-être envie de voir autre chose. Ou peut-être que j'ai envie de passer à... Là, aujourd'hui, j'ai toujours cette envie. Pendant 2024, j'aurais fait 10 ans. Moi, je me vois aller poursuivre encore après.
Un petit JO puis... plus. Au ouais, moins, un JO plus.
Un JO à Los Angeles, ça pourrait le faire, ça pourrait être sympa. Mais voilà, c'est en fonction des performances, en fonction de plein de choses aussi, de ta vie de famille, comment ils vont grandir, ce qu'on a envie. Et ça, pour l'instant, je me suis donné déjà jusqu'à Paris. Il y a des jours où tu te dis, c'est tellement dur tout ce que tu fais. Pourquoi tu fais tout ça? Tu te poses des 10 000 questions tout le temps, mais ce qui te fait tenir, c'est le projet que tu t'es défini à un moment donné. Il faut s'accrocher à ça et d'aller chercher dans les choses vraiment profondes dans tes motivations. Mmh.
Et mais tu disais que du coup, forcément, aujourd'hui, tu prends plus de repos que peut-être qu'il y a 9 ans. Comment tu gères ça mentalement? Parce que j'ai l'impression qu'on est un peu sur le même fonctionnement sur certains trucs, si je me trompe pas. C'est hyper dur d'accepter que le corps, parfois, en fait, il te dit stop et que tu sois obligé de dire « bon, bah, ok, je me repose, je ne vais pas m'entraîner » ou « je dois faire moins » ou « je dois juste rester l'après-midi, faire une sieste ou... ». Comment tu le vis? Du coup, ça, comment tu arrives à… Parce que c'est un nouvel obstacle, ça, quelque part.
Ouais, c'est très compliqué. Ce n'est pas quelque chose qui est simple du tout. Après, je parle de se respecter. À un moment, c'est un peu ça. Et à un moment donné, au final, tout fout le camp, au final, si t'es pas équilibré là-dedans. Et donc, t'apprends aussi de tout ça que si tu te reposes pas, si tu fais pas tout ça, soit tu vas te blesser, soit si t'as pas cet équilibre-là, de toute façon, tu vas pas être non plus dans la réussite. Donc, tu en as besoin, t'en prends conscience. Moi, après, j'essaie de travailler sur d'autres choses, faire d'autres activités, de monter d'autres projets en parallèle. Je repose mon corps physiquement et mentalement, j'essaie de travailler différemment. Il y a des moments où c'est frustrant parce que je suis tellement fatigué physiquement que je n'ai même plus l'énergie de penser.
Ça c'est la double peine, franchement. Moi, quand ça m'arrive, ça, c'est vraiment que je suis allée vraiment beaucoup trop loin et c'est très très frustrant. C'est terrible.
En ce moment, ça arrive trop souvent pour moi. mais c'est dur, c'est vraiment dur. Par exemple, quand je suis en compétition, je me dis le temps de jeu par rapport au temps d'entraînement que j'ai à la semaine, c'est minime. Je dois jouer peut-être 2 heures et demie par jour.
Ouais.
Par rapport à ce que je fais d'habitude, je fais le double. Je me dis, donc du coup, je vais pouvoir travailler énormément. Et puis en fait, ça m'a pris tellement d'énergie sur un match. Que non, je suis en mode récup, je suis en mode je vais dormir, et ça il faut l'accepter. Et au début c'était difficile à l'accepter, et maintenant je me dis c'est comme ça, il faut que je me respecte. Et si le corps il dit stop, il dit stop, et puis c'est ok quoi.
Ouais, parce que après, c'est pas ça, c'est plus sur le sujet sportif, mais après, on sait très bien que ce qui risque, c'est le surentraînement. Du coup, tu te sens pas bien non plus dans ta tête, et du coup, tu rumines du noir, etc. Et c'est quand t'as appris, de toute façon, quand t'as fait les premières erreurs, certaines fois, tu t'es bien rendu compte après de ce que ça peut faire mentalement et physiquement, et du coup, tu t'évites de le refaire, donc tu sais, mais c'est jamais évident. Et je pense que par rapport à la retraite et tout ça, quand tu vois j'avais déjà écouté des épisodes de podcasts qui parlaient justement de la dépression des sportifs de haut niveau qui s'arrêtent, ou en tout cas qui changent de vie, et d'où de l'importance d'avoir des projets annexes qui soient suffisamment moteurs pour te donner envie de te donner à fond dans autre chose, parce que c'est, à mon avis, pas évident quand tu donnes autant de ta personne et de ton corps, enfin physiquement, de ton énergie physique, que d'un coup, bah, t'as moins cette pression, cette excitation à aller récupérer des médailles ou à gagner des matchs, etc. Et c'est sûrement très difficile, en fait, aussi le changement, quoi.
Ouais, carrément, il y a des sportifs, au final, quand t'as travaillé pendant 4 ans pour un but précis, tu gagnes cette médaille d'or, et après, derrière, c'est... la vie, elle est fade. Je suis arrivé au maximum de ce que j'imaginais. Pour certains, c'est « Ok, on va aller chercher la deuxième, je vais aller écrire l'histoire, je vais en gagner le plus possible. » Si je prends des exemples, genre Teddy Riner, voilà, lui va aller chercher sa quête là-dedans en disant bah, je vais toujours plus loin. Mais pour certains, ou quand tu t'étais pas préparé en tout cas à dire bah, je vais, ou quand tu l'as gagné en disant ouais, c'était dur, mais t'as pas prévu l'après et t'as pas été équilibré là-dessus, je peux comprendre qu'il y en a qui font des burn-out après la victoire, que du coup ils ont plus de sens. Pourquoi il faut aller s'entraîner? J'ai déjà une médaille, j'ai plus envie de rien. J'ai eu un pic tellement élevé d'adrénaline et d'euphorie que du coup, moi, je suis convaincu aussi d'une autre chose, c'est cet équilibre de vie. Et là, on est parti dans des ups qui sont tellement, tellement, tellement élevés que bah, la chute, elle est fatale. Après, on va tomber dans un down monumental et si on n'est pas préparé à ça, on peut y rester un peu un petit moment.
Mais je crois que ce truc-là d'être de vivre ces shoots d'adrénaline, enfin moi je les connais pas à ce niveau-là de au niveau du sport, parce que je connais pas, mais je sais que dans mon quotidien j'ai souvent des pics d'adrénaline pour plein de choses, et je pense que il y a aussi des caractères à être un peu shooté à ça, tu sais, enfin d'être un peu enfin, tu vois, un peu addict à ces up énormes où tu sais qu'après ça sera un peu down, mais t'as besoin dans ta vie d'avoir beaucoup de shoot comme ça, tu vois.
Ouais, carrément. Là, je veux pas inciter les gens à se droguer, mais c'est ce que les gens cherchent dans la drogue et que moi je trouve dans le sport. Donc, du coup, c'est une super drogue naturelle. Donc, allez-y, ça coûte pas cher.
Après, ouais, il y a toujours des histoires de limites, parce qu'on sait qu'aussi, il y a aussi parfois des cas qui se développent de bigorexie, etc. Donc, il y a aussi finalement des addictions qui se développent, et je pense qu'on n'a pas tous le même profil et on n'a pas la même sensibilité aux addictions. Tous sont comme.
Non, c'est sûr. Mais moi, je pense avoir beaucoup d'addictions là-dessus, mais après, c'est aussi de. J'ai besoin de ces moments forts, j'ai besoin de ces adrénalines surtout, j'ai besoin de vivre des moments très, très intenses. Par contre, ça va avec les moments qui sont moins bons, mais j'ai appris à les accepter parce que du coup, ça fait partie de l'équilibre. Bah, et sans cet équilibre-là, je pense que je disjoncterais totalement.
Ouais, super intéressant. Et je reviens un petit peu sur le sujet initial, parce que j'ai aussi appris que tu avais été élu à la commission des athlètes de haut niveau du Comité paralympique et sportif français. C'est un long... longue commission. Je savais pas du tout que ça existait. Preuve de ma méconnaissance du sujet, mais totale. Je savais pas que ça existait, cette commission. C'est quoi son objectif? C'est quoi ton rôle dedans, du coup?
En fait, le principal objectif. Alors déjà, c'est ils viennent de la lancer là, parce qu'avant, elle n'existait pas. Ça existe. La commission des athlètes de haut niveau existait, mais pas pour le comité olympique, mais pas paralympique. En France, ça n'existait pas. Eux ont une mission, en tout cas, le comité paralympique, c'est le développement, la promotion, à tout ce qui est en lien avec le paralympisme. Et la commission d'athlètes, nous, c'est de faire ce lien avec ce comité paralympique français et les athlètes. D'avoir cette voix en tant qu'athlète, de dire... où nous on voudrait aller en tant qu'acteur, en tant qu'athlète, par rapport à d'autres personnes qui veulent développer la chose. Voilà, c'est vraiment de faire ce lien entre les deux. Après, moi j'ai aussi et pourquoi moi ça m'intéressait aussi d'aller dans cette commission là, c'était que moi je trouvais en tout cas que la visibilité des parasports bah, c'est une catastrophe, toujours.
Non, mais d'accord,
même ouais. Si on essaye, mais aujourd'hui, il n'y a pas de cette visibilité-là. Donc, je suis allé dans cette commission-là pour aussi clamer aussi auprès des... Je sais que tous les athlètes ont ce manque, ont cette problématique-là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire avec le CPSF pour rendre plus visibles les parasports? Et aussi une autre chose, c'est sur la professionnalisation, parce que aujourd'hui, on est tous en sport amateur. Il n'y a aucune personne qui est professionnelle, ou en tout cas, on se professionnalise là-dedans. Mais pour moi, un sportif de niveau, on est tous sportifs de niveau, mais après, il y a des sportifs amateurs et des sportifs professionnels. Le sportif professionnel, c'est qu'il est payé tous les mois pour faire, pour performer.
Tu veux dire qu'il n'y a pas cette reconnaissance-là pour le Paralympique ?
Aujourd'hui, en fait, on est soit détaché par une entreprise, donc là, c'est ce qu'on appelle un CIP, c'est un contrat d'insertion professionnelle, un contrat entre l'entreprise, l'athlète et aussi notre fédération qui nous aide là-dessus. Mais c'est l'idée, c'est on est embauché pour nous détacher du temps. Donc on va pas être employé à 100% mais à X% pour pouvoir s'entraîner, mais on est payé quand même tous les mois. Ça représente à un contrat professionnel pour aller performer, mais pour moi on reste quand même dans l'amateurisme, dans le sens où c'est une société externe qui va aller chercher ça, et pas comme un club de foot ou un club de rugby ou un club de basket qui paye son joueur pour jouer, pour aller performer, parce que le club a des recettes d'entrée, de merchandising, de tout ça. Et aujourd'hui, dans le parasport, il n'y a rien. C'est-à-dire que même une compétition internationale, aujourd'hui, il n'y a pas de prize money, donc il n'y a pas de récompense financière pour un athlète qui gagne, alors que tu l'as côté valide. Et ça, on ne l'a pas parce que c'est tout l'écosystème autour de l'événement et des choses. Si tu veux, il y a le lien entre... On connaît la différence entre le sport masculin et le féminin. On sait que les femmes, elles touchent moins. Ou même au foot, on veut prendre même un sport. Le mieux payé au foot et la femme la mieux payée, il y a un écart tellement énorme et pourtant, elles font le même sport.
Non, ça, c'est comme quoi l'inégalité, on la retrouve vraiment, vraiment partout.
Et cette inégalité, bah, nous, on se la retrouve aussi entre valide et para. Et c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a tout un combat là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, si je prends les commentaires ou les arguments de certains en disant bah, ouais, mais du foot féminin, c'est pas joli, ça va pas vite, et ainsi de suite. Mais parce qu'on est encore dans cette comparaison. Aller voir du sport masculin au niveau du foot. L'objectif, moi, c'est là où, en fait, je trouve que c'est pas bon. On est toujours à comparer entre hommes, femmes, et si demain, on met des enfants séparés, c'est moins spectaculaire que des adultes. Après, c'est qu'est-ce qu'on va aller chercher ? Est-ce qu'on va aller voir un show ? Et donc, du coup, un show, on va aller voir une performance, on va avoir quelque chose d'extraordinaire. OK, bah, donc, du coup... Mais il faut juste comparer les choses. Il faut au contraire arrêter de comparer les choses et de bien dissocier. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Et je me dis que... là, je diverge aussi un petit peu, mais souvent, on me pose la question par rapport aux Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en disant « Ouais, mais ce sera tellement mieux si c'était au même moment, pour vous, pour une meilleure visibilité, et ainsi de suite. » En fait, je ne pense pas qu'on serait plus visible.
Non, je ne pense pas non plus.
Je pense que même au contraire, on serait là en train de regarder un 100 mètres valide et les mecs, ils font ça va super vite. Et puis juste à côté, on a d'autres et ils font « Ah ouais, c'est vraiment lent. » C'est les pauvres petits handicapés. Et je suis moi, j'aurais cette vision-là de me dire « Les pauvres. »
Ouais, mais n'empêche que même, alors même que c'est, tu vois, je savais pas ça, que c'était pas forcément en même temps. Mais même si c'était, même quand c'est, alors que c'est pas en même temps, dans les médias, tu n'as quasiment jamais la retranscription en direct. Ou alors, il faut aller sur certaines chaînes. Ou encore, il faut aller chercher les infos soi-même. Mais tu ne les as pas. Il n'y a pas de représentation, même dans les médias. Très peu.
Pour les Jeux Olympiques, bah, France Télévisions fait un maximum de choses. Et de plus en plus, ouais. Ça va le faire. Je ne sais pas s'il y aurait... aujourd'hui, il n'y a pas le même nombre d'heures d'antenne non plus pour. Mais c'est une offre, c'est une question d'offre et demande.
Ouais, c'est ça.
Encore une fois, eux, ils se disent, bah, si les gens regardent, oui, on va diffuser. Mais en fait, les gens vont pas regarder. Mais est-ce que ils sont au courant d'eux? Et c'est un peu cette histoire de chat qui se mord la queue. Hein,
c'est ce que je voulais dire. J'avais cette expression en tête, c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'en fait, la demande, tu la provoques aussi parce qu'il y a l'offre et parce que tu proposes aux gens et que tu montres que c'est normal et que ça fait partie, en fait, des Jeux Olympiques. Ça fait partie, c'est un tout.
Après, moi, j'ai bon espoir au final, là, maintenant, avec les places qui sont tellement hors de prix aux côtés Jeux Olympiques. Peut-être, j'ai un bon espoir que les gens vont venir du coup voir les Paralympiques et du coup ça va changer un peu le regard et donc c'est peut-être une bonne nouvelle au final.
Ouais, j'ai une amie qui s'était inscrite sur les listes d'attente pour recevoir les
prix, ouais, pour les
inscriptions.
Moi aussi, hein.
Moi je me suis jamais posé la question, tu vois, mais elle m'a montré le mail avec les prix, mais je savais même pas que ça pouvait atteindre des telles sommes. En fait, je n'avais aucune. C'était, je sais pas, c'était des 1500, 1600 euros
c'est ça.
La folie, enfin, bon.
Ah, ça, c'est fou, mais parce que les places les moins chères sont parties très vite. En fait, c'est l'offre et la demande. Hein. Il y a peu de places et il y a beaucoup de gens qui veulent. C'est le plus gros événement planétaire. Donc, du coup, les gens veulent y venir et pas que des Français.
Ouais, c'est ça. Bah oui, après, t'as toute une population aussi très, très fortunée qui peut se permettre ce genre de... Enfin, d'y aller, quoi. Mais t'avais... Est-ce que t'as, du coup, toi, t'as... Bah, je suppose que la réponse est oui, mais ta vision du handicap, elle a forcément changé. Qu'est-ce que ça t'inspire maintenant, ce sujet-là, de manière générale? Est-ce que c'est quelque chose qui... Enfin, comment tu le... Est-ce que ça a changé ta perception? Et comment, en fait?
Moi, en fait, le handicap, il a changé dans ma perception, dans le sens où moi, je me considérais pas en situation de handicap parce que j'avais réussi à compenser, parce que moi, je voyais une personne handicapée comme le petit logo qu'on voit tous en fauteuil. Oui. Donc, je ne m'identifie pas à ça.
Ouais.
Et en acceptant le handicap, en parlant... Je me suis rendu compte d'une chose et surtout j'ai appris un chiffre, c'est qu'à 80%, l'handicap, il est invisible.
Ah ouais,
et là, ça a tout changé pour moi.
Ouais.
Le jour où j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit qu'en fait, il y a plein de gens autour de moi. Mmh. L'handicap ne se voit pas, donc à 80%, une personne, genre, il n'y a qu'une personne, une personne sur quatre où en fait, l'handicap, il se voit. Et les autres, ça se voit pas. Mmh. Et là, dans ma tête, je me suis dit, ouais, mais c'est quoi cette histoire? En fait, on est des millions.
Mmh.
Et en fait, on est plein de personnes qui vivent pas forcément bien parce que ils sont, comme on dit, invisibles. Et doivent compenser au quotidien leur maladie, leur difficultés quotidiennes. Donc, elles ne sont pas forcément les mêmes qu'une personne qui est en fauteuil sur de l'accessibilité. Ça, c'est certain. Et je sais que ça, c'est un vrai combat pour des personnes qui sont en manque de mobilité, parce que rien n'est accessible. Et pour être avec des potes qui sont en fauteuil... Je me dis, ouais, c'est vrai que d'avoir les choses accessibles, c'est un droit. Et qu'au final, on ne respecte pas ce droit-là, ils n'ont pas cette liberté-là. Et donc, je comprends totalement cette revendication d'accessibilité. Parce qu'ils n'ont pas choisi d'être dans un fauteuil ou d'être diminués là-dessus. Donc, je l'entends tout à fait. Mmh. Ça, c'est un vrai combat. Et moi, j'ai un autre combat aussi à côté, c'est sur cette reconnaissance. Au final, des personnes qui sont un peu dans l'ombre, de toutes ces personnes qui n'osent pas en parler et en fait, qui sont vraiment dans ce mal-être où ils n'acceptent pas cette situation. Et moi,
et
ça a changé
beaucoup de choses. Ouais, en plus de ça, c'est pas reconnu. Alors que je sais que on en avait parlé un peu, mais finalement, c'est aussi cet obstacle de la vie qui dépend pour X personnes, toi pour le coup, cet obstacle, ça a été ton handicap, c'est aussi peut-être ce qui a fait te rendre meilleur. Je ne sais pas si on peut dire meilleur, mais tu disons que ça te pousse à essayer de briller. Ça te force à te dépasser quelque part.
Oui, complètement. Après, moi, je suis même encore persuadé d'une autre chose, c'est par rapport à sa singularité. Je parle d'handicap, mais ce qui nous fait vraiment briller, c'est notre différence et notre singularité. Moi, aujourd'hui, c'est mon handicap. Et en fait, on va souvent trouver sa singularité dans des difficultés. Parce qu'on arrive à réagir et à être bon dans des situations difficiles. Et c'est là où on va puiser ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent et il y en a qui ne s'en sortent pas. Avec la même difficulté, il y en a qui vont totalement sombrer. Et si on va chercher cette singularité là-dedans, moi c'est comme ça que je pense. Hein.
Ouais, je suis assez d'accord. Parce qu'en plus, on a tous notre singularité, même avec la vie la plus banale. On a tous un truc incroyable, en fait. Et c'est pour ça que ce podcast, pour le coup, j'adore et je continue de le faire, même si je manque de temps. C'est parce qu'à chaque fois, je reçois des personnes qui, elles ont eu une vie et il y a toujours des choses incroyables à aller écouter, à aller chercher, parce que tu apprends toujours des personnes que tu rencontres, en fait, quel que soit leur parcours.
Ouais, complètement. C'est tout à fait ça.
Et c'est sûrement des sujets que tu abordes aussi quand tu interviens. Je sais que tu m'as dit que tu avais participé à un TEDx.
Ouais.
Et que t'as, enfin, ça c'est un truc qui est quand même hyper. Je sais pas trop quoi en penser. Il y a beaucoup de. Enfin, j'ai essayé de le chercher en plus. Je l'ai pas trouvé. J'ai essayé de le chercher.
Cette vidéo. Il est pas encore sorti. Je l'ai fait là en février.
Ah, c'est pour ça.
Il n'est pas encore sorti parce que ça prend un certain temps parce que chaque TEDx. En fait, la particularité du TEDx, c'est que déjà c'était un gros challenge à faire parce que je l'ai pas fait pendant. J'avais pas beaucoup de temps pour le préparer. Et puis, en tant que conférencier, c'est vrai que c'est un graal, c'est une vraie reconnaissance de le faire. Ouais. Et moi, c'était un vrai challenge dans le sens où je suis assez à l'aise pour parler aux gens parce que j'aime transmettre et du coup, de parler avec des gens ou de prendre la parole en public, ça va encore. Par contre, d'apprendre par cœur un texte. De le diffuser et que ça reste shorté pendant, il faut que ça rentre entre 12 et 15 minutes, pas plus.
Ouais, c'est chaud.
Que ton message doit être impactant, que tu dois connaître mot pour mot ce que tu dois dire, sous peine de pas être republié après, par le TED. Parce que du coup, TEDx, c'est sous l'égérie de la marque TED. Donc c'est des écoles où, là aujourd'hui en France, c'est souvent des écoles de commerce ou de grandes écoles qui vont inviter, qui organisent tout ça. Et après, derrière, ils envoient ça quand même à la maison mère aux États-Unis pour valider quand même tout ça. Donc, ça prend un certain temps derrière. Et eux aussi sont notés chaque année en fonction des speakers, en fonction de la qualité de tout ça. Et donc, sont notés chaque école sur leur choix des conférences qu'ils ont organisées et dans leur choix de leurs speakers. Donc, tout ça a une importance et c'est assez marrant cet écosystème. Moi, c'était un bon challenge et j'ai fait ce TEDx où mon titre de TEDx, c'est pour briller. Pour briller, en fait, tu utilises ta singularité.
Ouais, je vois. Mais par rapport à ce que tu dis sur les conférences, je pense que c'est toujours challengeant de parler devant des personnes, d'arriver à transmettre le bon message et surtout dans un temps délimité. Et j'ai envie de dire, peu importe la forme que ça prend, TEDx, pas TEDx, quelle conférence, etc. L'important, c'est que le message soit transmis. Est-ce que tu parles plutôt de la singularité de chaque personne et de chaque parcours, ou est-ce que tu parle quand même de du handicap invisible et de ce sujet-là.
Au final, moi, je peux pas prétendre avoir la vérité. Je dis juste, voilà ma vie, voilà ce que j'ai vécu, et voilà ce que je peux vous transmettre par rapport à ma vie et des expériences que j'ai apprises. Et de mon chemin, ce que j'ai appris, c'est que je parle de mon handicap, je parle de mon handicap invisible, je parle du fait que J'entreprenais avant, mais aujourd'hui, si j'ai réussi à briller, c'est parce que j'ai mis ma singularité au centre de mes projets, qui fait qu'aujourd'hui, je brille, que j'arrive et que moi, je suis épanoui. Donc, ça, c'est maintenant ma conviction et que j'ai envie de transmettre aux autres. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ton podcast et dans ce que tu dis, au final, un conférencier, moi, je suis là pour semer des graines. Et je sais que toi, tu fais pareil avec ton podcast. On est là pour semer des graines. Au final, on est en train... L'écologie, elle est là, en fait.
Ouais, c'est ça. Non, mais c'est clairement ça. Je pense vraiment que le podcast, le sujet, tu peux bien sûr apporter des connaissances quand tu traites d'un sujet hyper pointu, hyper... Mais avant tout, ce que ça permet de faire, c'est de semer des graines dans la tête des gens. Et après, ça pousse pas. Peut-être que ça poussera dans 5 ans, parce que peu importe. Mais c'est de, au moins, tu sais, donner les moyens qu'il y ait des messages qui se passent sur les ondes. Voilà, pour le coup, du podcast, parce que moi, c'est le média que j'aime bien. Mais
ouais, mais on peut aller plus loin, on peut aller plus en profondeur, je pense, avec le podcast. Et c'est ça qui est très intéressant. Moi, que je dis souvent, c'est que moi, je suis là, je plante des graines. Et après, je dis aux gens, c'est à vous d'arroser et de mettre la lumière que vous voulez pour que ça ne pousse pas vite. Ouais. Et après, c'est là, c'est votre entourage, c'est à vous de gérer ça. Maintenant, moi, j'étais là comme... souvent, on dit aussi, qu'est-ce qui a créé le déclic pour des personnes, qu'est-ce qui a fait, ainsi de suite. Bah, moi, c'est ça qui me rend aussi épanoui aussi dans ce que je fais et en tant que conférencier. C'est de pouvoir transmettre, mais aussi de pouvoir créer ces déclics à certaines personnes en se disant, ah ouais, en fait, avec ton parcours, moi, ce que j'aime beaucoup à la fin, c'est le pourquoi pas moi. Je prétends pas être un grand sportif ou quoi que ce soit. Je dis juste, voilà mon parcours, voilà ce que j'ai fait.
Ouais.
Et plus les gens vont se dire, pourquoi moi aussi, je pourrais pas faire la même chose, j'essaie de me mettre au même niveau que chaque personne et d'être le plus accessible pour que eux aussi, et cette envie, en tout cas ce déclic de dire « Ouais, pourquoi pas moi aussi, je pourrais pas aller là-dedans » ou me lancer dans ma passion, d'aller chercher ma singularité et de passer à l'action. Et en fait, la chose, c'est qu'on transmet des choses, mais ce qui fait bouger les choses, ou en tout cas, c'est là ce que je dis, c'est comment on passe à l'action, et il n'y a que le mouvement qui permet de tout ça. Et donner des clés ou des astuces aux gens pour qu'eux aussi, ils se lancent et ils passent à l'action, parce que... on est tous comme ça, et même dans certains projets, il y a certains projets qui n'avancent pas ou qui c'est difficile parce que on réfléchit beaucoup, parce que on a envie d'eux, mais on n'ose pas se lancer. La seule chose qui marche, c'est d'y aller. Peut-être on va se casser la gueule ou pas, mais au moins on est dans le mouvement. Et quand tu bouges et quand tu fais quelque chose, c'est là que tu te rends compte que déjà t'as pas la même perception.
Ouais.
Du projet, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que tu peux faire.
Et je pense qu'en plus, quand tu parles de mouvement, ça revient sur ce qu'on disait, mais le sport, on a beau dire manger, bouger, le discours qu'on martèle à la publicité, mais en fait, c'est indispensable si on veut avancer, je pense, dans la vie sur le plan émotionnel et sur le plan mental. Il faut bouger physiquement, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que c'est pas pour rien si... les deux sont corrélés. C'est pas pour rien si les athlètes de haut niveau comme toi, vous avez de la prépa mentale, etc. Parce qu'en fait, les deux s'imbriquent. Et du coup, n'importe qui veut mener à bien des projets, quels qu'ils soient, même si ce n'est pas du sport, je pense qu'il a tout intérêt à développer aussi ça. Et les athlètes en sont un exemple... immense, c'est qu'en fait, vous allez dépasser des limites, et quand tu apprends à dépasser tes limites physiquement, tu apprends aussi à les dépasser, je pense, mentalement, et ou professionnellement, ou autre, enfin, voilà. Donc, je pense que c'est aussi un, je pense que ça doit être un des messages aussi que tu transmets, c'est la passion aussi du sport et du mouvement.
Complètement, et puis, moi, il y a aussi une chose que j'ai appris en étant sportif de haut niveau, c'est des connaissances sur moi, sur mon corps, sur mon esprit, sur une vraie reconnaissance. En fait, dès que tu es dans le dépassement de soi, tu apprends, tu es souvent en échec, réellement, et donc du coup, tu apprends beaucoup sur tes capacités de résilience, tes capacités à rebondir, et puis tu apprends sur ton corps des choses où... Je pense aussi parce qu'on va souvent chez le kiné pour réparer, pour enquiller aussi toutes ces heures d'entraînement. Et donc, du coup, je ne dis pas que je vais être kiné demain, mais j'ai une connaissance du corps que je n'aurais jamais eu cette connaissance sans avoir fait du sport de haut niveau. Et donc, du coup, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est cet apprentissage sur soi en étant sportif de haut niveau te guide aussi après derrière sur qu'est-ce que tu veux de gérer même la gestion des émotions qui est tellement hyper intéressante à avoir sur pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi là tu t'énerves, pourquoi ça. Mais au final, ça on le vit aussi. C'est-à-dire que nos émotions peuvent nous servir comme peuvent nous desservir pour performer. Il y a des moments où tu pètes un plomb et t'es totalement en colère, tu fais n'importe quoi sur le terrain. Voilà, t'as appris que là, t'es parti dans cette colère, impossible de revenir, c'est comme ça. Et parce qu'on n'a pas écouté tous les signes qui t'a emmené vers cette colère-là. Du coup, t'es dans cet apprentissage tout le temps de soi et de tes émotions. Et donc, ça te sert tellement. Moi, aujourd'hui, ça me sert tellement dans ma vie personnelle, même dans ma vie de parent. Et voilà, c'est même juste de me dire, mais tiens, là, comment tu réagis? Pourquoi tu es autant agacé que tes enfants renversent quelque chose? Est-ce que c'est si grave?
Qu'est-ce que ça vient réveiller?
Ça vient réveiller chez toi cette propreté pour que tout soit tout à fait propre, et ainsi de suite. S'il n'y a pas de vie, et ainsi de suite. La finalité, c'est qu'est-ce que tu veux, en fait? Et du coup, ça m'apporte tout ça aussi. Donc, c'est ça qui est très enrichissant aussi en allant chercher. Mais on n'est pas obligé d'être sportif de niveau pour avoir tout ça.
C'est
ça qui est aussi intéressant. Moi, je l'ai parce que je suis dans l'échec et je vis des choses où tout ça m'aide à aller chercher de la performance. Mais on aurait tous ce travail à faire pour aller chercher de la performance au travail, d'apprendre à se connaître mieux, de voir des psys pour savoir où sont nos problématiques, quelles sont nos peurs, pourquoi on réagit.
Je prêche une convaincue, je passe mon temps à répéter que si tout le monde allait voir un psy dans sa vie, il y aurait beaucoup moins de problèmes en société, je pense. Il y aurait beaucoup moins de problèmes de communication, il y aurait beaucoup plus de lâcher prise, il y aurait beaucoup plus de fluidité dans les échanges, il y aurait beaucoup plus de clarté dans ce que les gens veulent, dans ce que les gens veulent pas, dans ce qu'ils attendent, Et franchement, c'est quand même, c'est là que tu vois la limite quand tu rencontres des gens et que toi, tu as fait ce travail-là. Ou que que moi, ça fait 10 ans que je vois des psys et que je continue à en voir parce que je trouve que c'est hyper important. Et je continue de me dire, mais punaise, si j'avais pas ça, mais comment je ferais pour relativiser, pour pas prendre certaines choses. Et en plus, j'ai encore énormément de chemin. On a toujours à apprendre toute sa vie, mais je pense que si tout le monde faisait cette démarche-là et qu'il trouve bien sûr une bonne personne, parce que ça, c'est encore un autre débat, mais ça irait beaucoup mieux sur plein de choses, dans les relations, dans tout.
C'est Bill Gates qui disait, le meilleur conseil que je peux donner, c'est investissez en vous. D'aller voir un psy, c'est exactement ça.
Mais c'est ça.
Et d'investir, vraiment d'investir, parce que c'est vrai que quand même, les séances coûtent cher. Et que du coup, je peux comprendre que quand t'es étudiant, quand t'as des problématiques, t'as pas envie forcément de dépenser tout ton argent là-dedans et que tu te dis, en fait, je suis en train de travailler pour moi, mais je vois rien concret qui se passe, parce que ça peut être un long chemin aussi. Et donc, c'est pas donné à tout le monde, et en même temps, de capitaliser sur soi, c'est vrai que c'est la meilleure chose à faire, mais... C'est clair.
Et tu sais, je repensais, j'ai failli, quand j'ai fait mon introduction, moi, la première phrase à laquelle j'ai pensé, c'est « tu sais, ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». C'est une phrase tellement bateau qu'on entend rabâcher, je pense qu'il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, mais toi, tu en penses quoi de cette phrase ?
Moi, ce que j'en pense par rapport à tout ça, c'est que elle est vraie. Elle est vraie dans le sens où c'est vrai que, en tout cas, moi, si je le prends au pied de la lettre, c'est vrai que tu rencontres des obstacles, t'apprends, et plus tu vas être dans l'échec et plus tu vas apprendre de ces échecs-là, et plus tu vas être plus fort. Donc, tant que t'es pas mort ou tant que ça te tue pas, c'est clair que ça va te rendre plus fort. Elle est raccourcie là-dessus. Mais tu sais, c'est un peu comme ce qu'on dit, c'est que les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps prospères, les temps prospères créent des hommes faibles, et des hommes faibles créent les temps difficiles. C'est la boucle.
C'est la boucle. Ouais.
C'est la boucle.
Ouais, je vois, c'est intéressant.
Et au final, on est que là-dedans. En tout cas, pour moi, c'est ce qui me parle quand tu me dis ce qui nous tue pas nous rend plus fort.
Mais en plus de ça, on est dans une société où, dans la vie de tous les jours, comme on disait, bah, les gens ils cherchent à en permanence être dans l'accomplissement ou la réussite. Mais en fait, c'est parce qu'il y a peut-être des moments durs que tu peux atteindre des moments de réussite. Mais si tu cherches à avoir tout le temps de la réussite, tu peux pas l'avoir. En fait, c'est pas possible. C'est pas tenable et c'est pas et ce n'est peut-être même pas épanouissant parce que tu connais pas justement les moments relous, tu vois.
Tout à l'heure on parlait de up, de down, de réussite, de bonheur. En fait, on est dans une quête de bonheur. On a tous envie d'être heureux. Maintenant, bien qu'est-ce sûr. Qui nous amène à ça on parlait aussi d'euphorie ou de pic d'adrénaline, de choses. Plus tu les connais et plus tu trouves, c'est pas un bonheur, mais c'est peut-être un bonheur éphémère à un moment donné, mais t'es dans une, c'est vrai que c'est un état physique où tu te dis une vraie jouissance, c'est des choses où t'es dans, tu planes vraiment. Mais c'est, j'ai jamais pris de drogue pour ça, mais j'ai ressenti tout ça. Et ce que je veux dire, c'est que ça va aussi avec... Pour moi, il y a un équilibre. Il y a forcément un équilibre de vie. Et que si on monte là-dedans, on a aussi ces downs qui vont avec. On a besoin de les accepter. Et donc, du coup, je ne sais pas si on cherche absolument le bonheur ou cet état permanent, comme tu dis, ça peut être une utopie totale ou ça se trouve, c'est impossible de rester là-dedans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que tu es là-haut, tu es dans cette euphorie, c'est cool, tu l'acceptes. Tu l'acceptes normal parce que c'est un des meilleurs moments. Après, tu vas être dans une chute, dans cette descente. Et à un moment, quand tu vas être dans ce creux de vague ou que ça ne va pas ou qu'il y a des choses qui ne vont pas, comment tu vas trouver cette énergie ou ce mouvement pour repartir et reprendre de l'élan? Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est, tout va avec, mais je suis persuadée que ça va avec.
C'est super intéressant ce que tu dis en plus parce que je me suis rendu compte que moi, pour avoir vécu très longtemps le down sans savoir du tout ce que c'était de l'euphorie, quand après je suis sortie de la tête de l'eau et que j'ai touché à l'euphorie pendant un temps donné et que j'ai revécu un truc down pour une autre raison, ça a été super violent parce que j'avais fini par me déshabituer de ce que c'était de redescendre en bas. Mais n'empêche que, une fois en bas, ben, je savais que c'était possible d'aller tellement haut par rapport au tellement bas que j'avais vécu. Je ne sais pas comment dire. C'est qu'une fois que tu as vécu déjà ces up et ces down, quand tu es même en bas, tu sais que c'est possible d'aller tellement haut que tu trouves les moyens pour te sortir de ce creux-là, tu vois. Parce que tu sais qu'en fait... il peut y avoir un truc incroyable, donc tu trouves les trucs pour y retourner. Mais n'empêche que on s'habitue vite au bonheur. On s'habitue vite.
Ouais, et je pense que si on était dans un bonheur permanent, on serait très ennuyé aussi.
Ah, ça serait très chiant, je suis d'accord. Je suis d'accord.
Ouais, comme c'est... on se dit souvent, on est en vacances, c'est génial, et à un moment donné, il faut la réalité pour qu'on apprécie un peu les vacances aussi.
Ouais, c'est ça.
Et c'est exactement la même chose.
Bah du coup...
Mais ce up and down, comme tu disais, c'est, ce qui est intéressant, c'est ce mouvement, en fait, c'est ces montagnes russes que tu as. Tant que tu es dans le mouvement, ça va.
Ouais,
le
c'est
problème,
ça.
C'est quand tu vas t'immobiliser
ouais.
dans les up ou dans les down qui fait que ouais. ça va plus là.
Ouais, c'est ça. Comme on le dit, comme de tout ce qu'on a dit... Je pense que ce qui résume un peu, c'est que finalement, les gens qui n'ont rien vécu de douloureux, ils s'en sortent entre guillemets mieux en apparence, mais pas forcément mieux sur le ressenti. Je veux dire, à la fin de ta vie, quand à l'âge où moi, je serai très, 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 très vieille, j'aurai plus que 100 ans, c'est sûr. Quand je me retournerai, j'ai parié dessus, voilà. Quand je me retournerai, est-ce que si j'avais rien vécu de douloureux, est-ce que j'aurais le même... est-ce que tu as le même à la fin truc où tu te dis waouh, en fait j'ai vu tout ça, j'ai fait tous ces trucs en haut, tous ces trucs en bas, et qui m'ont appris tous ces trucs en haut, qui m'ont réentraîné en bas pour X raisons. Et tu vois, finalement, parfois c'est les parcours les plus semés d'embûches, pardon, qui finalement à la fin t'auront apporté énormément de choses.
Mmh. Alors, en fait, moi je dirais que tu vois, quand tu dis ceux qui n'ont rien vécu de douloureux s'en sortent mieux, je dirais oui, jusqu'au jour où ils rencontrent une difficulté. Et là, en fait, plus tu vas attendre dans ta vie de rencontrer des difficultés, plus le jour où tu rencontres une difficulté,
ça va être dur.
Tu sais pas quoi faire.
Bah ouais.
Et en fait, c'est même l'image qu'on a même dans la société par rapport à l'emploi. Aujourd'hui, surtout avec moi, le modèle avec mes parents d'avant, où au final tu faisais carrière pendant 30-40 ans dans la même société,
ouais.
Et à la fin t'étais reclassé, t'étais mis au placard et ainsi de suite. Et en fait, c'est, ils sortent pas de leur zone de confort, ils étaient toujours dans la même boîte, pas se réinventer, ils évoluaient dans la même boîte, mais il y avait, après il y avait les 30 glorieuses, il y avait plein de choses qui ont fait que même que on n'avait pas le économiquement, c'était plus quand même facile pour eux, donc du coup il y avait le plein emploi, ou en tout cas il y avait moins de chômage, il y avait moins de difficultés. Mais du coup, dès qu'il y a eu ces difficultés qui sont arrivées, et ben c'était super compliqué, et parce qu'il n'y avait pas ce changement, parce que ils sont pas sortis de leur zone de confort et ils ont rencontré leurs difficultés, je trouve, vraiment tard.
Ouais.
Alors que ceux qui ont rencontré des difficultés tôt dans leur vie ont dû s'adapter, trouver à se renforcer dès le début pour en être là, pour survivre, pour certains, et c'est ça en fait, là, je pense, par rapport à la phrase que tu dis, c'est que moi je suis au final heureux d'avoir eu des difficultés le plus jeune dans ma vie, parce qu'aujourd'hui, même je parle de handicap, je dis aussi une chose quand je suis en conférence, c'est que la mauvaise nouvelle aujourd'hui que je donne à tout le monde, c'est qu'on sera tous en situation de handicap un jour dans sa vie.
C'est clair.
Vieillit tous. Donc on va tous être en situation de handicap. Il y a des choses qu'on pourra plus faire. La seule différence, c'est que moi je l'ai eu jeune. Et donc du coup, j'ai réappris à m'adapter. Et que le jour où je serai encore plus en situation de handicap plus tard, je serai encore m'adapter au fur et à mesure du temps, parce que j'ai appris ça. Il y a des gens, s'ils vont être en situation de handicap le plus tard possible, et bah pour eux, ça va être la fin de la vie pour eux, et parce qu'ils n'auront pas trouvé ces adaptabilités, ou ces adaptations, plutôt.
Puis parfois, ce handicap, il se manifeste même pas physiquement, mais il se manifeste, tu sais, j'ai l'impression quand même qu'il y a une tranche d'âge où les gens qui n'ont pas fait ce travail-là avant finissent par être nombreux à se prendre dans la figure, là, à l'âge, je dirais 40-45 ans, une espèce de retour de bâton, de ne pas avoir fait certains choix avant, certaines qui n'ont peut-être pas fait ce travail, et qui prennent de plein fouet, tu sais, un peu le contre-coup d'avoir un peu mis des œillères sur plein de choses, sur leurs émotions, sur leurs besoins fondamentaux, sur leurs envies profondes, etc. Et tu te retrouves en fait aujourd'hui avec quand même des personnes... Enfin, moi, quand j'étais dans les périodes où j'ai été hospitalisée, dans les services où j'étais... En psychiatrie, il y avait notamment pas mal de personnes en dépression ou en burn-out qui avaient dans cette tranche d'âge-là 40-45 ans, mais c'était vraiment ou qui étaient tombés dans l'alcoolisme, ou dans la drogue, etc. Mais tu avais vraiment cette tranche d'âge où tu voyais qu'il y avait une recrudescence de ces craquages, de ne pas avoir fait probablement un chemin avant. Donc, en fait, il y avait plein de trucs à soigner, tu vois, mais je pense que du coup, c'est une chance quand tu t'arrives des trucs avant, parce que tu fais un travail que tu n'as pas à faire peut-être plus tard.
C'est ça. Et même, je dirais que dans l'éducation aujourd'hui, Moi, j'étais ultra protégé, ultra tout ça. Je suis là même à me dire, moi, par rapport à mes enfants, en fait, si j'arrive à contrôler la dureté de ce qu'ils vivent, ouais. Mais tu vois, c'est juste de tempérer. Je serai là si c'est très, très dur et qu'ils peuvent toujours... Je serai toujours là comme un soutien, comme un appui, mais plus ils vont rencontrer de difficultés jeunes, à leur échelle, plus ça sera facile pour après.
Ouais. Mais après, moi, pour le coup, j'ai eu de la chance. J'avais fait un épisode avec mon papa sur le sujet. En fait, mon père, il a tout perdu quand il avait 48 ans, genre dépôt de bilan et tout, avec des enfants en bas âge. Et en fait, il a été obligé par la vie, par les aléas, de tout perdre et d'avoir plus rien, alors qu'il avait un statut social et tout, et que t'arrives à presque 50 ans, t'as plus rien. Donc, du coup, il a rebondi, il a créé une entreprise, il a construit une maison, des gîtes. Et en fait, il s'est jamais arrêté de toute sa vie. Il s'est jamais arrêté. Il a toujours rebondi, il a toujours fait des trucs. Et du coup, j'ai grandi avec ce truc-là où, en fait, il m'a toujours dit, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, à partir de là, tu te lèves et tu t'avances, en fait.
Oui, et puis, moi, je dirais, même par rapport à ça, c'est que ça, ceci, c'est très français. C'est, on va chercher des problèmes.
Ouais, où il n'y en a pas. Il n'y en a
pas forcément.
Ouais.
Et en fait, les gens, même si ça arrive, en fait, c'est le truc le plus important, c'est trouver des solutions. OK, il y a un problème. D'accord, c'est un fait. On peut rien y faire. Quelle solution on peut trouver pour régler ça? Et si on mettait plus son énergie dans les solutions que dans les problèmes, je pense que... En fait, c'est ça que je trouve fou aussi. Là, on dérive totalement.
Grave, on part dans un débat philosophique.
mais c'était déjà couru, on le savait tous les deux que c'était dérivé à force de discuter. Tu vois, je prends toutes ces personnes qui revendiquent, qui manifestent, qui sont pas d'accord. Ouais. C'est tellement important aussi pour défendre nos droits et ainsi de suite. Mais je me dis toujours une chose, c'est que pour moi, ils se trompent de combat. C'est-à-dire qu'ils mettent une énergie folle à s'opposer à quelqu'un pour dire « Non, tu ne dois pas attaquer mes droits, tu ne dois pas faire ça. » Ils attaquent le problème et ils renforcent le problème. Et je me dis, mais ils mettent une énergie tellement folle là-dedans. Si tu tournes ton cerveau dans l'autre sens en disant « Ok, il me propose ça, quelle solution je pourrais apporter ?»
Oui, il y a aussi eu beaucoup de montrer par l'exemple. Tu sais, moi, je ne suis pas forcément d'accord avec certaines choses. Ben, plutôt que de dire « t'as tort » ou « c'est pas comme ça qu'il faut faire », ben, en fait, je montre par l'exemple une autre manière de faire et de vivre. Je sais pas, j'ai pas d'exemple particulier en tête, mais à partir du moment où tu es aligné avec tes idées, etc., et que tu montres par l'exemple ta manière de faire, je pense que c'est aussi le plus inspirant possible, tu vois.
Oui.
Si on devait... aux personnes qui nous écoutent et qui ont tenu jusque-là, je suis sûre qu'elles tiendront jusque-là parce que c'est trop intéressant. Et je sais qu'il y en a qui écoutent jusqu'au bout parce que moi, je vois le détail des écoutes. Enfin, je sais très bien que même les épisodes les plus longs sont toujours écoutés. Quels seraient les messages qu'on pourrait ou que tu aurais envie de donner aux personnes qui nous écoutent, enfin, je sais pas, transmettre, à retenir, on va dire.
Il y a beaucoup de choses. Non, On va aller simple. Déjà, en fait, par rapport à... Moi, je pense déjà sur une chose, c'est sur la singularité. Je me dis une chose, c'est que en fait, notre singularité, que ce soit un handicap invisible ou visible ou une maladie, j'en sais rien, un trait de personnalité ou des valeurs, tu vois, n'importe quoi. Si on met ça au centre de notre vie, je suis persuadé que c'est ça qui nous fait briller. Et souvent on dit que c'est par nos fissures que traverse la lumière et que si on veut briller, c'est par il faut aller chercher ça. Et nos fissures, c'est notre singularité. Je suis persuadé de ça parce que je l'ai vécu et que si on va tous puiser là-dedans, on va réussir. Et que on est tout le temps à vouloir se comparer aux autres. Et qu'au final, notre singularité, c'est ce qui nous rend réellement unique. Et que personne pourra nous copier, personne pourra nous imiter, personne. Il n'y a que nous, on est vraiment unique là-dessus. Et si on met au centre ce côté unique qu'on a, on peut que réussir. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons faire ça de telle façon. Et on le voit même dans l'entrepreneuriat. Plein de gens ont la même idée, mais chaque personne individuellement ne vont pas le développer de la même manière. Et c'est ça qui fait qu'il y en a un, c'est un succès, ou un autre, c'est pas un autre succès. Mais si chacun met sa singularité au centre de ses projets, pour moi, on ne peut que réussir. Mmh. Ça, c'est mon premier. C'est vraiment la chose que je veux vraiment transmettre. Et après, la deuxième chose que j'aimerais transmettre, parce que c'est un peu mes piliers et mon modèle d'éducation sur et mon modèle de réussite. Mes trois piliers sont la première chose, c'est la curiosité. Si je peux donner vraiment un conseil aux gens sur les choses, c'est soyez le plus curieux possible, parce que plus on est curieux, plus on sort de sa zone de confort, plus on va voir des choses qui peuvent nous, et on va trouver plein d'opportunités. Il y a une autre phrase que j'aime beaucoup aussi dire, c'est que on me dit souvent que j'ai de la chance, et en fait non, j'ai pas de la chance, j'ai de la chance. Et la curiosité, elle vient là, c'est-à-dire que j'ai de la chance à par ma curiosité à me trouver des opportunités. La deuxième chose, c'est l'estime de soi, un de mes deuxièmes piliers. Je cultive ça un maximum avec mes enfants. Alors, le sport aide beaucoup à avoir une estime de soi, mais c'est tellement important d'avoir confiance en soi, parce qu'il y a tellement de gens qui vont nous rabâcher. C'est pas possible. T'y arriveras pas. C'est trop difficile. Que si on arrive à avoir cette force interne, il y a que nous qui arrivons à bouger les choses. Il y a que nous qui arrivons à nous lever le matin. Et donc, si on arrive à avoir cette estime de soi, on n'est pas tous là avec cette même chance. Où on a une éducation qui nous a aidé à avoir cette estime de soi, mais ça se travaille réellement tous les jours. Le sport aide énormément à avoir de l'estime de soi, et on peut avoir des résultats très vite, et d'avoir confiance en soi, de montrer que c'est capable, d'aller courir 1 km, c'est impensable, on va se dépasser, on va y arriver, et après on se redonne 1,5 km, 2 km, jusqu'à aller se faire un marathon. Alors qu'au tout départ, est-ce qu'on aurait imaginé 2-3 ans avant de se dire « je vais aller courir un marathon, c'est tellement impossible, c'est pas pour moi ». Et c'est tellement inenvisageable, mais ce dépassement de soi par le sport nous aide à avoir une estime de soi forte, et moi j'en suis convaincu de ça. Et la dernière chose dans ces piliers-là, c'est la persévérance. Alors soit parce que je suis très têtu. Et donc du coup, tant que j'ai pas réussi quelque chose, je suis buté et je veux réussir, mais donc du coup ça m'aide dans cette persévérance là mais réellement, sans travail et sans cette persévérance là on va pas au bout. C'est à dire qu'à chaque obstacle, si je devais m'arrêter, on irait pas loin. Et que du coup, quand on cultive cette persévérance en se disant ok, ça va être dur, oui, mais le jeu vaut peut-être la chandelle, et que il faut pas oublier nos rêves. Ça va avec la curiosité et tout ça, mais voilà, c'est, il faut rêver, il faut être curieux, il faut tout ça pour aller se chercher quoi, de la motivation. Et avec cette persévérance et de l'estime de soi, on peut arriver à vraiment dépasser nos rêves et à aller les chercher. Donc c'est pour ça que ces trois piliers là, pour moi, ils sont vraiment quelque chose que j'aime transmettre, parce que c'est pour moi, c'est la quête du bonheur.
Je te rejoins totalement. La curiosité, je trouve que c'est un truc hyper important à cultiver. C'est ce truc un peu que ont les enfants et qu'on a tendance à perdre quand on devient adulte, et qui est trop dommage. Et je trouve que c'est hyper important de cultiver ça toute sa vie, en fait, de garder ce côté un peu waouh, en fait, je connais pas ça, j'ai envie d'en savoir plus. Je connais pas ce milieu-là, je veux en savoir plus. Je connais pas ce sport, j'ai envie d'essayer pour voir. Et ça, c'est hyper important, parce que ça t'amène plus loin, ça te fait grandir, c'est vraiment très chouette, les gens qui arrivent à garder ça. Tu le reconnais assez vite, en plus, tu le vois vite chez les personnes, celles qui ont toujours envie d'aller plus loin, d'aller creuser le truc. Et donc, en tout cas, merci pour tous ces messages-là, c'était hyper intéressant. Ma petite dernière question que je pose à chaque fois, c'est que t'évoques la phrase « sois sage et parle fort ».
Bah moi, ce que ça m'évoque, sois sage. En fait, c'est un peu notre société. On nous a toujours dit, même en tant qu'enfant, sois sage, fais pas de vagues, rentre dans les rangs. Et donc du coup, avec cette et parle fort. Du coup, c'est bah montre que tu existes à travers ce sois sage avant. Donc ouais. J'aime bien ce petit slogan que tu as lancé, sois sage et parle fort. Ouais. En tout cas, ce titre de podcast est fort et du coup, j'invite tout le monde à, je sais pas, être sage, parce que au contraire, c'est il faut un peu de folie et par contre de parler fort, c'est important de montrer qui on est. C'est ça qui est important, de se respecter, et voilà, ça, voilà ce que ça m'évoque.
Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait cet épisode. J'adore toujours autant faire des épisodes, mais c'est toujours chouette quand on peut débattre comme ça sur plein de choses un peu philosophiques qu'on n'a pas forcément le temps de creuser au quotidien, parce qu'on est pris dans le quotidien et dans la vie de tous les jours. Et je trouve que c'est super chouette de pouvoir prendre ce temps-là pour discuter, et que des personnes puissent entendre ces mots-là. Donc je suis très très chouette et très reconnaissante. Si jamais les personnes souhaitent te contacter ou te suivre, j'indiquerai les informations pour te suivre sur ton compte Instagram notamment. Je sais que tu es aussi un peu actif sur LinkedIn.
LinkedIn et Instagram. On va dire Instagram, c'est plutôt sportif. C'est un peu pareil, mais c'est, voilà, j'utilise les deux réseaux.
Et les conférences.
Oui, et puis essayer de faire bouger les choses sur le handicap, mais pas de la même manière, d'un point de vue très, on va dire, lifestyle, ou on va dire vie quotidienne sur Instagram, et plutôt comment on peut faire bouger les choses en entreprise, à vraiment d'utiliser le principe même de ces deux réseaux qui n'ont pas la même cible. Et donc du coup, ouais, j'essaie d'être actif sur les deux. Après, ce n'est pas mon métier de base, mais j'aime transmettre, et donc du coup, oui, on peut me contacter en tout cas sur Insta, LinkedIn, sans problème, je réponds au message.
Super. Encore. Si des personnes sont intéressées pour recevoir, t'accueillir en conférence, vous savez où trouver Mathieu. Moi, je vais continuer à suivre les aventures des prochains matchs, des prochaines compétitions, pour savoir où est-ce que ça va aller.
Ouais. Et puis moi, je veux que tous les auditeurs viennent dans le stade à Paris pour aller supporter tous les athlètes français, parce que ça va être peut-être dur pour les places pour les sportifs olympiques, malheureusement. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de places, pas cher en tout cas, mais le 9 octobre, ils vont sortir la billetterie pour les Jeux paralympiques. Donc du coup, allez-y, foncez, parce que du coup, je pense qu'il y aura du gros spectacle. Et le comité de Paris 2024 veut aussi faire de très beaux jeux. En tout cas, voilà, que ça soit valide ou pas valide. Malheureusement, il y a trop de demandes pour les places valides. Et donc aujourd'hui, même moi, les prix des billets, c'était un peu n'importe quoi. Mais c'est le business, ça. C'est comme ça.
Du coup, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Inscrivez-vous sur les listes pour être tenu informé des places pour les Jeux paralympiques, parce que là, vous pourrez assister à du gros spectacle. Vraiment, des gens qui se battent de ouf et qui ont des parcours de vie sûrement moins bien tracés facilement que les personnes valides. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir, de prendre le temps aussi, parce qu'avec 35 heures de sport par semaine, c'est quand même pas évident de trouver du temps. Donc merci beaucoup.
Moment, donc voilà, ça fait partie de ma résilience et d'acceptation.
Super.
Un peu plus de temps et moins de temps je suis plus en repos, donc je fais travailler la tête. Mais c'est pas travailler, mais en tout cas, c'était très très chouette. Merci pour cette invitation.
Avec grand plaisir. Très bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez sages un petit peu, mais surtout parlez fort beaucoup.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.